Voilà, donc on va un deuxième temps de topo. On inverse, c'est moi qui commence. Ce sera un temps sur l'accompagnement en général, et donc un premier temps sur l'insistance sur la cohérence du rituel de l'initiation chrétienne des adultes, que vous avez tous évidemment, non pas en main, mais à la maison. Ou le presbytère, pardon. Voilà. Donc c'est ça, vous le connaissez. Il est un peu abîmé celui-là, parce que... C'est quoi ça ? Voilà, donc, on va commencer par la cohérence. D'abord pour dire que ce rituel, qui est issu donc du Concile Vatican II, est un rituel inédit, en fait. Il n'y avait jamais eu de ce genre de rituel pour l'initiation chrétienne des adultes, ou même des jeunes. Et donc, voilà, c'était une nouveauté, hein, j'aurais dit qu'il n'est pas si ancienne que ça. Ce qui fait l'originalité, c'est le fait que ce soit un itinéraire, justement, qui comporte donc des temps, des périodes de recherche et de maturation. On peut insister sur cette expression « recherche et maturation » parce que on sent bien qu'il y a quelque chose d'extrêmement important dans ces temps. Mais ce qui est vraiment l'essentiel, ce sont les étapes liturgiques qui sont qui scandent, dit le rituel, le chemin vers les sacrements d'initiation. Il y a donc une cohérence, l'adaptation française, donc ça c'est le rituel romain, Ordo Initiationis Christianae Adultorum. Donc ce rituel romain a été adapté pour les pays francophones une première fois, c'était peut-être certains ont connu ici, le rituel du baptême des adultes par étapes en 1974, on voit le nom rituel du baptême des adultes par étapes, c'est-à-dire que on n'a pas repris le nom initiation chrétienne, même s'il est, il figure sur le document. Alors ça veut dire qu'il y a eu une certaine réticence, il faut le dire. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais il y a eu une certaine réticence à recevoir le rituel romain qui, de 1974 à 1998, pendant 24 ans, on a utilisé un rituel ad interim, c'est-à-dire qui était promulgué pour une période avant d'arriver au rituel entre guillemets définitif que nous avons nous en pratique aujourd'hui. Donc ça dénote aussi une certaine difficulté à recevoir un rituel, en tout cas pour la France et dans les pays francophones, mais surtout pour la France. On avait des habitudes et on avait eu du mal à arriver à un rituel plus proche du rituel romain. Dans d'autres aires linguistiques, on a fait autrement. Voilà, donc ce rituel est un livre rituel, hein. En plus, dedans, il y a même des images, mais je ne sais pas si vous avez sûrement remarqué, hein, c'est un rituel qui a des tableaux, en fait, faits pour ce rituel. C'est assez intéressant, d'autant plus que ces tableaux peuvent être une source pour la catéchèse, faite avec les catéchumènes. Voilà, donc on a ce rituel, et puis... Le catéchuménat, donc je donne cette définition, hein, c'est la mise en œuvre de l'itinéraire. Le catéchuménat, c'est la mise en œuvre de cet itinéraire. Ce qui est important, c'est l'itinéraire rituel. Le catéchuménat en est la mise en œuvre, voilà. De manière tout à fait diverse en termes d'accompagnement, je veux dire, hein, selon les personnes. Ce qui est important aussi, c'est que cet itinéraire, il est considéré comme tout entier sacramentel. Ça veut dire que les étapes liturgiques qui sont déployées, et en même temps ces périodes de recherche et de maturation, et en même temps l'accompagnement des catéchumènes, et en même temps l'incorporation dans la communauté, tout cela fait un itinéraire sacramentel. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que jusque-là, on comprenait de manière... On sépare souvent la parole et les sacrements. Un patrologue, Jean Danielou, en 1956, disait déjà qu'il se peut qu'une certaine théologie des sacrements nous ait conduit à situer tout le sacrement au moment où s'accomplit l'acte essentiel et à méconnaître l'importance des actes cultuels préparatoires. Hein, c'est-à-dire, le sacrement, c'est ponctuel. Or là, l'itinéraire rituel de l'initiation chrétienne nous permet de concevoir une sacramentalité déployée et justement ne pas être dans la... de déponctualiser en quelque sorte, notamment le baptême. Parce qu'on en est encore à dire, aujourd'hui, on y reviendra, qu'on va vers le baptême avec les catéchumènes. Voilà. Et donc, avant le baptême, il se passe quelque chose, déjà Jean Danielou, hein, de l'ordre des sacramentaux, tous ces rites qui sont faits tout au long de l'itinéraire. D'autant plus que dans les périodes de recherche et de maturation, ce n'est pas le temps du catéchuménat, hein, c'est le temps du catéchuménat et ses rites, qu'on oublie souvent, et ses rites. Il y a des rites tout le temps, quoi, tout le temps de l'itinéraire. Et donc, Joseph Ratzinger, une référence aussi, hein, donc c'était en 1976, donc avant qu'il soit pape, le catéchuménat n'est pas qu'une simple instruction religieuse, mais il fait partie du sacrement. Le catéchuménat fait partie du sacrement. Et ce n'est pas un préalable, mais il en fait partie de manière intégrante. Le catéchuménat n'est pas un préalable au sacrement. D'autre part, le sacrement n'est pas qu'une cérémonie liturgique, hein, ponctuelle, mais un mouvement, un chemin qui engage toutes les forces humaines, raison, volonté et sensibilité. Donc, le sacrement se déploie tout au long de l'itinéraire. Donc, il parle de l'itinéraire d'initiation chrétienne. Donc, il y a une compréhension du chemin d'initiation chrétienne sacramentelle. Et donc, c'est le lien entre parole et rite. Donc, j'ai mis un petit P parce qu'il y a la parole de Dieu. Et il y a toutes les paroles qu'on dit, hein, les paroles rituelles, les paroles de la catéchèse. Enfin, tout ça, ce sont des paroles qui sont tissés avec le rite. Parole et rite, c'est les deux en même temps, c'est pas séparé. Donc Joseph Ratzinger parlant du caractère sacramentel du catéchuménat. C'est dans ce lien entre parole et rite, et on voit bien que les catéchumènes sont initiés à la parole, c'est pour ça qu'on leur remet le livre des évangiles à la première étape, l'évangélière même, c'est mieux. Enfin, c'est bien l'évangéliaire qui puisse recevoir l'évangéliaire dans cette étape. Et puis, ils sont initiés aussi par la parole. Par la parole, c'est-à-dire dans l'échange avec les accompagnatrices et accompagnateurs, mais aussi dans les rites de l'effeta, dont on a déjà parlé, des scrutins aussi, où la parole elle-même initie, la parole de Dieu, et par les paroles rituelles aussi. Voilà. Donc, diverses paroles. Certains récits servent de fondement au rite, hein, comme les scrutins, avec les trois évangiles, hein, la Samaritaine, l'aveugle né et Lazare, et donc et aussi les feta avec l'évangile de Marc 7, c'est-à-dire qu'on a vraiment certains récits qui servent de fondement au rite, et puis on a tous les récits qu'on peut utiliser en catéchèse, enfin utiliser c'est un très mauvais mot, qu'on peut partager avec les catéchumènes, notamment pour l'appel décisif, hein, les tentations de Jésus sont vraiment un texte assez fondateur. Le premier dimanche de carême qui peut vraiment être déployé tout au long de l'itinéraire. Voilà. Donc, toute la cohérence du rituel, de ce rituel, dans ce qu'on appelle cette performativité, ça veut dire, voilà, le rite fait ce qu'il dit. Vous savez, la première étape, nous on appelle ça, en France, en francophonie, l'entrée en catéchuménat. Le rituel romain dit étape pour faire les catéchumènes. De manière très précise. C'est l'étape pour faire les catéchumènes. Donc, ça, on n'a pas gardé ça, même si c'est en note de bas de page dans le rituel. C'est vraiment l'étape. Avant, ce sont des candidats et des candidates. Ils deviennent catéchumènes le jour de cette entrée. Donc, cohérence. Alors, on parle de catéchumènes déjà avant l'entrée, nous. Hein, bon. Mais vous voyez, c'est une manière de comprendre ce que veut faire, la manière dont le rituel veut faire cheminer les personnes. Ça va, donc parole et rite, sacramentalité. Et donc, il y a un schéma. Vous avez un autre schéma hein, ici. Enfin, vous avez, les catéchumènes diocésains font chacun leur propre schéma. Mais il y a un schéma, c'est celui du rituel. Ben, c'est la même chose, mais là, c'est plus simple. C'est une particularité du rituel francophone hein, qui, alors, dans le rituel romain, il y a aussi les périodes et les étapes, mais ils ne sont pas mises comme ça en schéma. Et à chaque fois, là, c'est le schéma pour le... À chaque fois, on a ce petit... Tancard, là, en gras, qui dit, voilà où on en est. Ce schéma dit bien qu'il y a un travail rituel qui se fait. C'est vraiment l'initiation chrétienne, un travail au sens, ça travaille, ça me travaille, ça nous travaille, ça travaille les catéchumènes. Voilà. Qui prend du temps, qui prend le temps plutôt pour le devenir chrétien. Parce que c'est ça l'objectif, entre guillemets. Donc ce schéma est extrêmement important et il dit bien l'articulation entre ces périodes et ces lectures. Vous voyez, c'est tant du catéchumène et ses rites, tant de la purification et de l'illumination et ses rites. Jamais oublier ses rites. Alors, cette cohérence, je vais donner trois points sur cette cohérence. Nous sommes accompagnatrices et accompagnateurs, communauté chrétienne, au service de la conversion des personnes. Au service du Christ, de l'Esprit Saint, mais de la conversion des personnes. Ça, c'est donc un extrait du rituel. Le rituel de l'initiation s'adapte à l'itinéraire spirituel des adultes. Les dons variés de la grâce de Dieu et la libre réponse des personnes, l'action de l'Église et la particularité des circonstances fondent les démarches personnelles. Il y en a là. Donc il s'adapte. C'est-à-dire qu'en fait, on dit souvent le rituel, c'est quelque chose de très codifié, de très institué, et en même temps, on l'adapte toujours, surtout qu'il y a autant de conversions qu'il y a de convertis. C'est ça notre problème. Parce que si tous les catéchumènes étaient dans la même démarche, évidemment, on pourrait... mais ce ne serait pas intéressant, en fait. Et donc, on sait bien, quand on accompagne depuis longtemps, qu'à chaque fois, on redémarre avec une nouvelle personne, et donc avec une nouvelle manière d'initier. Les catéchumènes donc, découvrent ce que c'est que de devenir chrétien, et puis découvrent aussi, et nous aussi, que ce n'est pas une question de connaissance, on le dit souvent, et pourtant... On aurait bien envie quand même qu'avant le baptême, ils sachent tout ce qu'il faut savoir. C'est plus difficile d'accueillir la foi comme don, la foi comme un don de Dieu, l'Esprit Saint qui travaille. C'est plus difficile. C'est plus difficile en termes d'accompagnement entre guillemets spirituel. L'accompagnement au catéchuménat touche à plusieurs domaines de l'accompagnement, même si nous ne sommes pas des spécialistes de tous les accompagnements, il touche à différentes facettes de l'accompagnement. Donc il y a une cohérence par rapport à, il y a souvent le terme conversion initiale, au numéro 111, premier signe de conversion, la conversion de la mentalité et des mœurs, la vraie conversion pour les scrutins, vous voyez. Donc ça veut dire que la conversion, le rituel, il dit que la conversion, ce n'est pas du jour au lendemain uniquement, c'est un processus qui suit, et ce processus, la cohérence du rituel, c'est qu'il suit ce processus, et qu'on dit qu'il achemine vers la profession de foi, effectivement, le jour des sacrements d'initiation, où c'est la profession de foi qui va aboutir au rite de l'eau, mais c'est toute une cohérence au service de la conversion, d'où l'importance du discernement des accompagnateurs et accompagnatrices avec l'évêque, le service diocésain, etc., mais aussi le discernement pour le catéchumène. On initie au discernement. Se convertir, c'est aussi discerner, et discerner dans sa propre vie. Donc il y a une initiation aussi à ce discernement. Donc, conversion au service de la conversion, cohérence au service d'une initiation au mystère pascal et par le mystère pascal, l'initiation doit avoir un caractère pascal, quel que soit le moment où on initie, quel que soit le moment où on célèbre les sacrements, le caractère pascal doit être là. Alors, bien, c'est mieux dans le temps pascal, mais il y a toujours cette, hein, même les scrutins, si c'est en dehors de ce temps, on prend les évangiles de la Samaritaine, de l'aveugle-né et de Lazare. C'est une cohérence pour initier au mystère pascal. C'est extrêmement important à voir comment ça peut se passer. Et donc, ce travail rituel est aussi cette cohérence avec le temps pascal, avec le caractère pascal, c'est l'accompagnement. Alors, vous savez que le mot accompagnateur, accompagnatrice n'est pas dans le rituel. C'est le mot catéchiste. Je ne sais pas comment ça résonne dans vous. Mais c'est ça le catéchète. C'est celui qui permet la progression, entre guillemets, enfin, le chemin pour les catéchumènes et la croissance aussi de la communauté, parce que c'est bien indiqué dans le rituel, qu'à la fois les catéchistes exercent une fonction importante pour le progrès des catéchumènes et la croissance de la communauté. Donc, les accompagnatrices et les accompagnateurs doivent non seulement s'occuper du catéchumène, mais aussi de la communauté et de sa croissance. Là, c'est plus compliqué, enfin, je trouve. Et donc, le mystère pascal se dévoile avec une catéchèse biblique. Hein, c'est la catéchèse catéchumène. Alors, il y a des fiches, il y a des outils, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a la Bible. Donc, la catéchèse est biblique. Les pères de l'Église, dont on a parlé de quelques-uns, est vraiment dans des catéchèses mystagogiques avec le fondement biblique et les rites, toujours. Le lien entre la parole et le rite. Et puis il y a les célébrations de la parole, dans cette conversion au mystère pascal, et par le mystère pascal, les célébrations de la parole qui permettent de graver dans le cœur des catéchumènes l'enseignement reçu. C'est une phrase très intéressante, numéro 107. Graver dans le cœur des catéchumènes l'enseignement reçu à propos des mystères du Christ et de la manière de vivre qui en découle. À propos des mystères du Christ, c'est une chose, et de la manière de vivre qui en découle. Voilà. On a ça, évidemment, dans le rituel, c'est-à-dire, c'est proprement mystagogique, hein, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les rites et sur la parole pour enseigner, entre guillemets, les mystères reçus, mais cela ne va pas s'en célébrer, notamment avec les premiers exorcismes et les bénédictions. Les célébrations de la parole, je ne sais pas si c'est courant chez vous, pas forcément partout, c'est extrêmement important dans le temps du catéchuménat, notamment avec les prières qui les accompagnent. Et enfin, une cohérence au service de l'ecclésialité. Alors, l'ecclésialité, donc faire église, le vivre l'église, l'être église, est sûrement il y a les sacrements dans l'unité et dans l'ordre, mais l'ecclésialité est sûrement quelque chose aujourd'hui, c'est un souci quand même, on le sait, dans l'ecclésialité, notamment de faire participer la communauté chrétienne. L'Église locale doit aider les candidats et les catéchumènes pendant toute la durée de leur initiation. Pré-catéchuménat, catéchuménat et temps de la mystagogie. L'Église locale doit aider ses candidats. Donc c'est essentiel hein, pour l'initiation chrétienne, le devenir chrétien, l'ecclésialité. Et donc on voit bien qu'il y a un paragraphe, il y a les ministères et fonctions. La première fonction, le premier ministère, c'est le peuple de Dieu qui l'exerce dans le rituel. Et c'est vital, évidemment, pour la responsabilité de tout baptiser. Voilà. Ça, on le dit souvent, mais il y a une complémentarité des rôles. Hein. Donc, l'évêque responsable de l'initiation chrétienne qui délègue un service, il y a les prêtres, les diacres, les catéchistes, le parrain, la marraine, il y a tout le monde. Quoi. Donc, au moment du discernement, c'est là qu'un discernement tout sens. Voilà. Le discernement est toujours jamais solitaire. Donc, on n'est pas tout seul, en fait, à accompagner normalement. Si on se sent tout seul, il faut absolument demander. Enfin, on sait bien qu'on accompagne des chemins de vie, hein, qui sont des portions de chemin de vie. Et comme c'est un moment de chemin de vie et que ce n'est pas forcément facile, et donc à un moment donné où il y a des décisions qui doivent être prises, et donc cette ecclésialité se joue beaucoup au niveau du discernement. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'église mère, je vais finir là-dessus, c'est-à-dire, vous savez, vous ne savez pas. Dans les premiers siècles, les pères de l'Église disaient que, je résume, que l'Église est enceinte des catéchumènes et qu'elle accouche à Pâques. Voilà. Et tout ce que fait aujourd'hui l'Église, c'est-à-dire tout ce que nous faisons, ce que vous faites dans l'accompagnement, ça fait partie de cette nourriture du fœtus, en quelque sorte. Hein. Et donc, les nouveaux baptisés de Pâques sont des nouveaux-nés, on le sait d'ailleurs. Il y avait un rite, le rite du lait et du miel, hein, qui à la fois disait la terre promise, mais disait aussi la nourriture des nourrissons. Et nous, on fait peut-être se rappeler ça pour dire que le moment de l'accouchement, c'est à Pâques. Et ensuite, c'est les premiers pas. C'est-à-dire ce sont des nouveaux-nés, on le dit assez, une nouvelle naissance. Voilà. Et parfois, dans cette ecclésialité, on aimerait que l'ecclésialité des nouveaux venus soit déjà pleine et entière et qu'ils nous rejoignent dans tous nos organigrammes. Je ne veux pas être méchant, je ne veux pas dire pour boucher les trous, pas du tout. Mais voilà, et donc sans tenir compte des charismes particuliers de ces personnes. Voilà. Et donc, c'est la prise de conscience de l'ecclésialité et dans cette ecclésialité, l'importance du parrainage. Le parrainage était dans les premiers. C'est un parrainage communautaire. Quand on parle de parrainage, c'est d'abord le parrainage de la communauté. Ensuite, il y a le parrain et la marraine particulier. On sait la difficulté de choix aujourd'hui. Hein. Ces personnes qui se présentent, même adultes, avec des parrains-marraines qui ne sont pas tout à fait conformes à ce qu'on espérait. Simplement, ce qui est important, c'est. Alors, ça se fait de plus en plus, un parrainage communautaire, de communauté, c'est un parrain ou une marraine désigné de communauté, de la communauté. Vous allez me dire, ouais, on trouve déjà pas de gens pour ceci ou pour cela. Il faut connaître nos priorités. Il faut les, et c'est pas forcément un parrainage de proximité tout le temps. Il y a une espèce de, comme on dit aujourd'hui, d'interaction avec la communauté. Le parrainage est quelque chose d'essentiel pour l'ecclésialité, pour comprendre ce que le catéchumène, ce que le néophyte peut apporter à l'Église. Je finis par une petite anecdote. Par exemple, moi je suis dans un pays de montagne, et donc un catéchumène qui c'est vraiment l'ecclésialité pour moi, c'est un problème d'ecclésialité. Un catéchumène donc, qui était guide de haute montagne et qui voulait profiter après son baptême de son expérience, de son métier, et pour aussi, dans la paroisse, instaurer un service qui serait foire et montagne, je ne sais quoi, pour accompagner les personnes, ce qu'il faisait déjà d'ailleurs. Et voilà, donc, la paroisse l'a embauché à la catéchèse. Donc il n'a pas pu, son charisme n'a pas été entendu. C'est vraiment un exemple pour moi très significatif de l'ecclésialité. L'ecclésialité passe aussi par voilà, l'écoute des charismes, des personnes qui, nouvelles venues qui peuvent permettre de vivre l'Église autrement et surtout de s'ouvrir à d'autres perspectives, notamment communautaires. Et puis évidemment, cette cohérence, elle passe par l'unité et l'ordre des sacrements d'initiation. Ça, j'y reviens pas, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé.
Oui, Roland met en évidence comment une des clés pour comprendre cette cohérence du rituel d'initiation chrétienne des adultes est l'imbrication entre parole et rite. Vous vous rappelez ce qu'on a dit dans la première partie de notre topo. Cela va à la source même du sacrement du baptême, la composante gestuelle et la composante verbale. Et donc, on voudrait juste vous rendre attentif par rapport à les multiples ressources du rituel d'initiation chrétienne des adultes à ce que nous avons appelé l'action mystagogique. C'est une expression un peu difficile peut-être à entendre, mais qu'on va essayer de vous, on essaie de vous faire part. Voilà. Tout d'abord, dans le rituel, prendre conscience que dans le rituel, il y a un temps qui s'appelle le temps de la mystagogie. Et dans les notes doctrinales et pastorales de ce temps, on souligne un peu à quoi consiste la mystagogie dans ce temps. Il dit bien, les notes doctrinales et pastorales disent qu'il s'agit bien du dernier temps de l'initiation. Encore, elles disent que les néophytes acquièrent une intelligence plus complète, plus fructueuse des mystères grâce à l'expérience des sacrements reçus et à la catéchèse. Ils disent que c'était une période où l'expérience nouvelle et fréquente des sacrements par les néophytes réjaillit sur l'expérience de la communauté. Donc, vous voyez, on parle vraiment d'un temps qu'on appelle mystagogique. Vous entendez bien, mystagogique au sens qu'ils font rentrer dans la compréhension, l'intelligence des sacrements, donc des mystères qu'on a reçus. En même temps, nous voudrions vous rendre attentif au fait que, même si ce temps est important, parce qu'il clôt le processus d'initiation, on peut regretter que ces mêmes indications du temps de la mystagogie circonscrivent la mystagogie dans un seul temps. Et cela empêche un peu de saisir, à notre avis, la dimension sacramentelle de ce même processus dans sa globalité. Alors, pour comprendre la plus grande richesse encore de ce que peut être ce qu'on appelle la mystagogie, il est intéressant de citer une note qui est propre au rituel francophone de l'initiation chrétienne des adultes, la note 2 du numéro 42 des notes doctrinales et pastorales, qui permettent d'appréhender la mystagogie de manière plus large. Je vais le citer, donc, il vous a rapporté dans la vidéo là. Le terme mystagogie vient d'un mot qui signifie entrer dans le mystère. La mystagogie s'accomplit d'abord par la manière dont la liturgie est célébrée en tant qu'elle est porteuse du mystère et introduit dans toute sa profondeur. Elle désigne aussi la catéchèse qui s'appuie sur les actes liturgiques pour en déployer la richesse et le sens. Et donc, on peut se demander légitimement s'il ne serait pas souhaitable d'honorer la notion de mystagogie tout au long du processus de l'initiation, tel qu'on entendait dire par Benoît XVI, Joseph Ratzinger, sur la sacramentalité du catéchuménat. Et donc cela, mettre en œuvre la mystagogie avant, pendant, après les sacrements de l'initiation chrétienne, en ayant soin de mettre en dialogue l'action liturgique qui est porteuse de mystère et la catéchèse qui est appelée à déployer la richesse de sens de cette même action. Et donc, cela permet aussi de nouer deux aspects de l'expérience catéchuménale et de l'expérience de la réception et de du don des sacrements de l'initiation, en nouant l'expérience liturgique et la vie chrétienne. En effet, pour parvenir à cette mise en œuvre qu'on appelle d'action mystagogique, il faut souligner, et Roland l'a fait déjà un peu, il faut souligner l'importance du rôle de celles et de ceux qui sont chargés d'accompagner les catéchumènes et de mettre en œuvre le rituel. On peut donner juste un exemple pour vous faire comprendre cela et prendre comme exemple la première étape de l'initiation selon le rituel qui est l'entrée en catéchuménat et la manière dont elle peut être mise en œuvre. Le RICA, les notes doctrinales et pastorales, prévoit qu'elle puisse être célébrée lors d'une Eucharistie ou non. Donc, ce choix est assez important. On peut la célébrer au cœur de l'Eucharistie ou non dans l'Eucharistie. Et la pratique catéchuménale et la réflexion à partir de cette pratique ont permis une évolution notable sur ce point, sur la manière de mettre en œuvre cette entrée en catéchuménat, et ils ont souligné l'importance des bienfaits, les bienfaits d'une célébration de la première étape de l'initiation chrétienne lors de la messe dominicale en paroisse pour articuler une expérience liturgique forte, c'est-à-dire la rencontre avec l'Assemblée, le déploiement d'une vie chrétienne et ecclésiale au sens large. Donc cet exemple de l'entrée en catéchuménat nous permet de mieux appréhender le sens de l'initiation chrétienne, notamment la nécessité d'initier les catéchumènes au sein même des communautés chrétiennes et donc le souci de les plonger dans ce qu'on appelle habituellement un bain ecclésial. C'est un bain avant le bain. Donc l'assemblée liturgique devient elle-même sujette d'un déplacement possible. Il n'y a pas que les catéchumènes qui se déplacent. L'assemblée elle-même se déplace à la rencontre des catéchumènes. On constate ainsi que, par cet exemple, mais on pourrait prendre tout le rituel, on constate que la manière de mettre en œuvre le rituel, de la manière de mettre en œuvre le rituel, dépend la manière de comprendre l'initiation chrétienne elle-même. Et donc la manière de mettre en œuvre le rituel n'est pas neutre, et ceci d'autant plus que l'on peut remarquer la disponibilité du rituel à des adaptations. On peut ou on ne peut pas. Voilà, il y a la possibilité de choisir. Donc le rôle de celles et de ceux qui mettent en œuvre le rituel est extrêmement important, car il s'agit d'un véritable travail mystagogique. Voilà que nous retrouvons le mot, c'est ce travail qui permet d'articuler expérience liturgique et déploiement dans la vie chrétienne. Et donc, il n'est pas tellement question d'acquérir une technique qu'on pourrait appeler mystagogique, mais il s'agit plutôt de faire un travail qui fait entrer le catéchumène dans le rite, de célébrer avec eux, de les aider à sortir du rite, pour qu'il puisse se prolonger dans la vie. Je vous fais remarquer que chaque dimanche, chaque célébration de l'Eucharistie, nous sommes invités à sortir du rite, aller dans la paix du Christ. C'est ça le sens de tout rite, savoir sortir du rite. Mais cela, ça se fait pour les catéchumènes en particulier, par l'accompagnement de ceux et celles qui sont chargés de cet accompagnement. Pour prolonger cette idée du travail mystagogique ou de l'action mystagogique, on a pensé que ce serait intéressant de faire référence à la récente lettre apostolique du pape François, Desiderio Desideravi, qui est consacrée précisément, je cite le titre de la lettre, à la formation liturgique du peuple de Dieu. Le titre est celui-ci, « Lettre apostolique, Desiderio Desideravi » du Saint-Père François aux évêques, prêtres, diacres, aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Et donc, le pape, dans sa lettre, insiste sur la liturgie comme étonnement et rencontre. C'est vraiment l'expérience de toute personne qui s'approche de la foi. Et le pape François propose une lecture spirituelle de la liturgie à partir du désir de Jésus de célébrer Pâques avec ses disciples. « J'ai désiré d'un grand désir célébrer la Pâque avec vous ». Et trois termes sont articulés dans la lettre et se réfèrent continuellement l'un à l'autre. Ces trois termes sont « beauté »,« rencontre », »,« étonnement ». On peut ainsi résumer la vision liturgique et spirituelle de la lettre apostolique comme suit « La beauté de la liturgie est donnée par la rencontre avec le Seigneur et génère ainsi l'émerveillement. » En ce sens, vous l'entendez bien, la beauté de la liturgie ne doit pas être comprise en termes conceptuels, comme une idée, mais en termes personnels, relationnels. La beauté vient de la rencontre avec le Seigneur, n'est pas quelque chose d'esthétique. La beauté est fruit d'une rencontre, d'une communion, et donc fait surgir l'expérience de l'étonnement devant le mystère pascal. Ainsi compris, le mystère engendre l'étonnement, et je cite le numéro 25 de cette lettre, cet émerveillement devant le fait que le dessein salvifique de Dieu nous a été révélé dans la Pâque de Jésus, dont l'efficacité continue à nous atteindre dans la célébration des mystères, c'est-à-dire des sacrements. La lettre apostolique montre la richesse, entre autres, du langage de la célébration qui s'exprime, une fois de plus, dans des mots et des gestes, dans l'articulation entre le verbal et le non-verbal, dans l'interaction entre tous les différents langages de la célébration. Le pape souligne sa motivation théologique en rappelant que Dieu nous rejoint selon la, dit-il, la méthode de l'incarnation. Et il dit ceci au numéro 10, l'incarnation est la méthode que la très sainte Trinité a choisi pour nous ouvrir le chemin de communion. Donc Dieu a choisi de communiquer avec nous dans le langage que nous parlons, au point que le Logos a pris chair et s'est fait homme. Nous allons le célébrer bientôt. Et donc le Père nous rejoint dans l'homme Dieu, Jésus-Christ, dans le concret de sa vie et continue à nous rejoindre dans les sacrements avec des éléments rituels qui font partie concrète de nos vies. Donc la rencontre avec le Seigneur se fait par des moyens sacramentels, dit le pape au numéro 42, c'est-à-dire dans la célébration liturgique, avec ses rites, ses symboles, à travers notre langage, qui est un langage rituel. Le pape donne à ce langage une dimension et une signification mystagogique, au sens que nous disions tout à l'heure. Et donc, en raison de la méthode de l'incarnation, cette manière humaine de célébrer doit être vécue dans toute sa plénitude, car c'est là que Dieu écrit la rencontre entre lui et nous. Et donc, cela demande en conséquence du soin dans la célébration, l'art de placer chaque geste rituel de manière appropriée pour qu'il soit lieu et don de la grâce. D'où l'importance de veiller aux dynamiques de la célébration. On a vu comment dans le rituel, on dit tout le temps de la purification et ses rites, le temps du catéchumène et ses rites. Il y a toujours une célébration du processus d'initiation. Et le pape insiste à plusieurs reprises sur la dynamique de la célébration du langage symbolique. Je cite là quelques extraits du numéro 49, là où il dit « Comme dans tout art, l'art de célébrer requiert différents types de connaissances. Tout d'abord, il faut comprendre le dynamisme qui se déploie à travers la liturgie, la dynamique même de la liturgie. Ensuite, il est nécessaire de savoir comment l'Esprit Saint agit dans chaque célébration. Enfin, il est nécessaire de comprendre la dynamique du langage symbolique, sa nature particulière, son efficacité. Le rite liturgique est donc constitué d'une pluralité de codes et comporte différents langages qui entrent nécessairement dans une relation réciproque et une harmonie globale. Ainsi, tout simplement, si nous y réfléchissons, la célébration doit être appréhendée à partir de quoi ? Du corps, des mots, des silences, de l'espace, de la vue, de l'odorat, du goût, la méthode de l'incarnation, dit le pape. Et donc, la force des gestes de la liturgie sont données, cette force est donnée dans la liturgie elle-même, et le pape, je ne sais pas si vous l'avez lu cette lettre, mais je l'évoque, souligne cette force de la liturgie à partir d'un signe de croix, du signe de croix. Et le pape dit, le signe de croix n'est pas expliqué à l'enfant. Il l'exécute simplement avec l'adulte, jusqu'à ce qu'il le fasse lui-même. Et donc la formation ne vient pas ici de la communication de concepts, mais de l'exécution du geste rituel. Dès lors, ce geste, sa force symbolique, nous appartient, ou mieux, nous appartenons à ce geste, il nous donne forme, nous sommes formés par lui. Je vous fais remarquer que le premier geste qu'on fait sur un catéchumène, c'est de le signer avec des signes de croix dans tout le corps, n'est-ce pas ? Et donc, on peut dire qu'il y a une force de la liturgie, selon l'expression du pape, dans le sens qu'il n'y a pas trop d'explications, ou pas du tout, il n'y a que le faire de la célébration, la mise en œuvre de la célébration, c'est ce faire qui fait expérimenter la foi sous la conduite de l'Esprit-Saint, c'est ce faire qui forme la foi et façonne la vie.